Chapitre 22e. Que peux-tu bien avoir dit à Minkoff ? Demanda un soir la princesse à Dosia qui la regardait se déshabiller en revenant du théâtre.
Ah, voilà, que lui ai-je dit ?
Fit la jeune fille d'un air distrait. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Reprit-elle avec plus de vivacité.
Il m'a dit qu'il n'avait rien compris à ce que tu lui avais dit, répliqua la princesse en riant.
Si tu trouves que ce n'est pas assez net, ne t'en prends qu'à toi-même.
Le visage de Dosia s'éclaira.
Ses dents blanches brillèrent un instant, puis elle redevint sérieuse ou plutôt distraite.
Je lui dis que je ne comprends pas comment on peut être assez malheureux pour avoir envie de m'épouser, fit Dosia après un silence.
Alors c'était une vraie demande en mariage ? Demanda la princesse en s'efforçant de ne pas rire.
Oui, répondit Dosia. S'il l'a pris pour une impertinence, cela veut dire que j'ai compris sa proposition, et s'il l'a pris pour une boutade, c'est que je ne l'ai pas tout à fait comprise. « N'est-ce pas clair ?»«
Pas trop, » fit la princesse, riant toujours.
« C'est toujours aussi clair que son discours à lui. »« Mademoiselle, les liens du mariage sont aussi sacrés qu'insolubles. Heureux celui qui trouve dans ce désert du grand monde l'épouse qui doit couronner son foyer et embaumer sa vie. Si je pouvais être celui-là, je m'estimerais à jamais heureux. »«
Voyons, Dosia, il ne t'a pas dit cela, »
s'écria la princesse. « À peu près. Si je me trompe, ce n'est pas de beaucoup. » Tu vois qu'à une demande si amphigourique, je ne pouvais pas faire d'autre réponse.
Mais il m'a demandé si ta mère accueillerait sa demande, donc c'est sérieux. Veux-tu que j'écrive à ta mère ?
Non, non, s'écria Dosia, ne réveillons pas le chat.
Chut, fit la princesse en mettant son doigt sur ses lèvres d'un air de reproche.
Soit, je n'achèverai pas, fit Dosia. Je suis bien sage à présent, tu vois. Je laisse mes phrases à moitié. Je voulais dire qu'il y a 6 mois que maman ne m'a grondé et que cette habitude m'a été très douce à perdre. Donc, quand je voudrais me marier avec l'aide de la sage Sophie, mon mentor, je n'aurais pas besoin de maman pour me décider.
Minkoff est riche, il est jeune, bien apparenté, il a une belle place.
Il est bête comme une oie, murmura Dosia, les yeux levés au plafond.
Pas comme une oie, corrigea la princesse.
Comme un oison en bas âge, rétorqua Dosia. Mais je crois qu'il n'est peut-être pas pire que les autres.
Celui qu'on aime, dit la princesse, ne ressemble pas aux autres.
C'est vrai,
murmura Dosia, mais ce ne sera pas lui.
Sophie le regarda non sans quelque surprise. La jeune fille rougit et se mit à jouer avec les flacons de la toilette.
Que décides-tu à propos de Minkoff ? Demanda la princesse qui avait achevé de natter ses cheveux.
Je ne sais pas. Je demanderai à ton frère ce qu'il en pense, dit Dosia, qui devint toute rouge. « Il est de bons conseils. » Elle embrassa la princesse et disparut. Le lendemain, Platon fumait paisiblement une cigarette lorsqu'il vit apparaître Dosia dans l'écartement des rideaux de la salle à manger. La princesse s'habillait pour sortir, l'heure était bien choisie.
« Mon Dieu, » dit Platon en souriant, « que vous êtes donc sérieuse, ma cousine ?»
Depuis les fiançailles de Pierre avec Sophie, il traitait moins cérémonieusement la jeune fille et l'appelait souvent ma cousine en plaisantant.
« C'est qu'il s'agit de choses sérieuses, » répondit Dosia.
Elle s'assit en face de lui. La table les séparait. Un rayon doré de soleil d'avril glissait à travers la triple armure des rideaux et caressait la jeune fille, s'arrêtant sur une boucle de cheveux, sur un pli de la jupe lila tendre. Elle était elle-même avril tout entier, pluie et soleil, caprice, promesse, grâce mutine et parfois rebelle. Avril qui s'ignore et se laisse mener par le baromètre. Le baromètre allait être Platon.
« Voyons, » dit-il en reposant son verre vide sur la soucoupe.
Plus d'une fois, le jeune homme avait été appelé à décider de graves questions de toilette ou de convenance. Il s'attendait à quelque ouverture de ce genre. « Me conseillez-vous de me marier ?» dit Dosia toute rose et les yeux baissés. La surprise était forte. Tout aguerri qu'il fût aux fantaisies de Mademoiselle Zaptine, Platon n'avait pas songé à celle-là. « Et pourquoi pas ? N'était-elle pas en âge de se marier ?» Il reprit son sang-froid, et sans autre signe d'émotion qu'un peu de rougeur à ses joues ordinairement pâles.
« Cela dépend, » répondit-il.
« De quoi ? » fit Dosia.
« De bien des choses. À qui avez-vous l'intention de vous marier, s'il n'y a pas d'indiscrétion ?»«
Je n'ai pas l'intention de me marier, » riposta Dosia, en frappant un petit coup sec sur la table avec la cuillère à thé.
Platon se mordit la lèvre inférieure.
« En ce cas, pourquoi m'avez-vous fait cette question sérieuse ?» dit-il après un court silence.
« Parce que je pourrais avoir l'intention de me marier, »
répondit Dosia en cassant méthodiquement un petit morceau de sucre avec le manche d'un couteau. Quand vous aurez cette intention, je crois que le moment sera venu de débattre l'opportunité de votre résolution. Dosia coupa court à l'extermination de son morceau de sucre et regardant Platon du coin de l'œil. Vous m'avez enseigné vous-même, dit-elle, la nécessité de ne rien résoudre avant d'avoir réfléchi longtemps à l'avance et hors de la pression des circonstances extérieures. Platon s'inclina sans rien dire, possédé soudain de l'idée assez peu raisonnée de tirer l'oreille à cette excellente écolière qui répétait si bien sa leçon. « Je suis à vos ordres. Veuillez vous expliquer. » Dosia se remit à casser du sucre. « Monsieur Minkoff a demandé ma main, » dit-elle. « Ferais-je bien de l'épouser ?» Platon s'absorba dans la contemplation de la nappe, et toute sa colère se tourna contre le prétendant. « Cet imbécile ? » proféra-t-il sans ménagement aucun. « Oui, » répondit Dosia d'un ton plein d'innocence. Le sucre grinçait sous le couteau. « Pour l'amour de Dieu !» s'écria Platon. « Cessez d'écraser ce sucre. Vous me faites mal au nerf. »« Je ne suis pas nerveuse, » répondit Dosia d'un air plein de commisération pour les gens nerveux. Elle se leva pourtant, de peur de tentation, et recula sa chaise, abandonnant le sucre à une mouche précoce éclose entre les rideaux. Mais en quittant sa place, elle perdit la parure de son rayon de soleil et l'appartement sembla devenir sombre. « En général, » reprit Dosia, se décidant enfin à s'expliquer, « croyez-vous que je doive me marier, que je sois assez raisonnable pour entrer en ménage ?» Platon ne put s'empêcher de rire. « Assez raisonnable ? » dit-il. « Cela dépend. Quand vous n'écrasez pas de sucre, vous êtes fort acceptable. » Un sourire furtif glissa sur les lèvres de la malicieuse. Elle trempa l'extrémité de ses doigts sucrés dans le bol à rincer les tasses, puis les essuya à son petit mouchoir et garda le silence. Platon se vit obligé de continuer. « Le mariage, dit-il, est certainement une chose fort sérieuse. Chacun y met du sien. Si le mari est très raisonnable, la femme l'étant moins, il peut s'établir néanmoins une sorte d'équilibre qui... » Il vit sur le visage de Dosia quelque chose, je ne sais quoi, qui l'arrêta court. Elle leva sur lui ses grands yeux innocents. « Alors il me faut un mari très sage, » fit-elle en toute candeur. Platon, agacé, ne répondit pas. « À cette condition, continua-t-elle, je puis me marier ?» Soudain, la vision du mess du camp, le bol de ponche, le récit de Pierre, tout cet ensemble de souvenirs odieux se dressa devant Platon et rompit le charme qui l'enlaçait. « Cela dépend, » répondit-il rudement. « Chacun se connaît. Faites ce que votre conscience vous conseillera. » Là-dessus, il quitta la salle à manger. Le rayon d'avril avait disparu. Une giboulée battait furieusement les vitres. Dosia resta immobile. La grande pièce était presque obscure. Les rideaux interceptaient le peu de lumière que laissaient filtrer les gros nuages noirs poussés par un vent violent. Une larme roula sur la joue de la jeune fille, puis une autre. Les gouttes brillantes se suivaient de près, dessinant un filet sombre sur le corsage lilas. Le nuage s'envola, portant ailleurs la grêle et la dévastation. Un pâle rayon jaune se glissa obliquement dans la salle à manger, puis le ciel, redevenu bleu, apparut en haut de la fenêtre. Le soleil d'or mit une paillette à chaque plat d'argent du dressoir, à chaque clou doré de la haute chaise de maroquin où Dosia siégeait en cassant du sucre. La mouche revint se poser sur la nappe. La jeune fille n'avait pas remué. « Eh bien, où donc es-tu, Dosia ? » fit la voix de la princesse. « Il ne pleut plus, nous sortons. » La jeune fille disparut par une porte au moment où Sophie entrait par l'autre. Une minute après, elle reparut, coiffée, gantée, voilée, et personne ne sut qu'elle avait pleuré. Le printemps s'avançait. Madame Zaptine réclamait sa fille. Sophie promit de la lui conduire avant la Pentecôte, c'est-à-dire avant son mariage, car les nouveaux époux se promettaient de voyager pendant la lune de miel. Madame Zaptine invita les trois amis à passer 8 jours chez elle avant la noce. Pressée par les instances de Dosia, la princesse y consentit. « Que veux-tu que je devienne quand tu ne seras plus là ?» disait tristement la jeune fille. « Tu reviendras l'hiver prochain, » répondait la princesse. Dosia secouait tristement la tête. « Quand on a 18 ans, l'hiver prochain est synonyme des calendes grecques. » Depuis les bourrasques d'avril, elle était devenue toute différente d'elle-même. Si la princesse n'avait pas été absorbée par les préparatifs de son mariage, Elle eût certainement remarqué cette métamorphose si rapide et si importante, mais elle n'y songeait guère. Pierre ne songeait qu'à lui-même, et pendant qu'il bataillait avec sa conscience et sa philosophie, la cause de ses soucis dépérissait étrangement. Le soir de leur arrivée chez Madame Zaptine, ils furent tous à la fois frappés de cette vérité, jusque-là méconnue. Le cri de leur mère leur ouvrit les yeux. « Mon Dieu !» s'écria Madame Zaptine. « Il faut que tu sois bien malade, Dosia, pour avoir maigri comme cela. » Les 10 perdus qui se trouvaient dans la pièce se tournèrent aussitôt vers la jeune fille qui rougit. L'incarnat de la confusion lui rendit un éclat passager. « C'est la sagesse, maman, » dit-elle d'une voix qui voulait être joyeuse, mais qui s'éteignit dans un sanglot. Elle s'enfuit dans le jardin. « Elle regrette beaucoup de vous quitter, à ce que je vois, » dit la bonne Madame Zaptine, cherchant à atténuer ce que sa première remarque pouvait avoir de désobligeant pour l'hospitalité de la princesse. « Oui, » répondit celle-ci lentement et en réfléchissant, « je ne croyais pas que ce regret fût si vif. Je voudrais bien le lui épargner, et pourtant je ne vois guère. « Bah, » dit une sœur aînée, « il faut bien qu'elle s'accoutume à rester à la maison. Nous n'en sommes pas sortis, nous autres, et cela ne nous empêche pas de nous porter à merveille. » Platon regarda d'une façon peu sympathique celle qui parlait et lui tourna le dos. « Pauvre petit oiseau, » pensa-t-il, « la cage va se refermer et lui meurtrir les ailes. » Le lendemain, dès l'aube, Dosia descendit au jardin. Comme tout lui parut changé, c'était pourtant le même jardin. La planche flexible où elle avait séduit son cousin était un peu plus déteinte que l'année précédente, mais les chenilles tombaient avec la même profusion. Dosia évita la balançoire et prit à gauche dans les taillis de lilas en fleurs. De son côté, Platon n'avait guère dormi. Il avait passé la nuit à se demander si c'était bien le changement d'air et la vie mondaine qui avaient amaigri et pâli les joues de Mademoiselle Zaptine. Un secret désir de connaître la topographie du jardin, de s'assurer que Pierre, matériellement au moins, n'avait pas altéré la vérité, poussa Sourov à sortir de sa chambre. Pierre n'avait pas menti. Le tableau de sa folle équipée était fidèle, en ce qui concernait le cadre, la balançoire, l'escalier périlleux, la pelouse où l'on jouait au gorelki, tout était bien à sa place. La grosse tête noire du chien de Dosia s'était montrée à l'entrée d'une niche dans la cour. Platon s'enfonça au hasard dans le jardin pour boire jusqu'au bout la coupe d'amertume et trouver le pavillon en ruine où Dosia avait demandé à son cousin de l'enlever. Il marcha quelques minutes à l'aventure. À travers le jeune feuillage, les paillettes étincelantes de la rivière lui indiquaient de temps en temps le chemin. Au bout d'une longue allée de tilleuls, il vit apparaître le toit bleu de ciel du petit kiosque et se dirigea vers son but à travers les méandres peu compliqués d'un labyrinthe classique. Mourieff avait décrit exactement jusqu'aux colonnes dépouillées de plâtre, où la brique apparaissait comme la rougeur d'une plaie. Sourov entra sous la coupole. Les bancs de pierre rongés par la mousse étaient à la place indiquée. Une grosse grenouille douairière regarda fixement Platon, puis sauta de tout son poids dans l'herbe qui envahissait les degrés de ce baroque lieu de repos. Le jeune homme s'assit sur un des bancs humides et réfléchit. Tout était donc vrai. Pourquoi Mourieff n'avait-il pas eu la charité de se taire? Au moins le supplice du doute et la torture de la méfiance eussent été épargnés à son ami. « Je devais l'aimer, » se dit Platon avec cette sorte de fatalisme qui est une des originalités du caractère russe. « Puisque je devais l'aimer, que n'ai-je pu l'aimer aveuglément ?» Dans l'affaissement complet du désespoir, il laissa aller sa tête sur sa poitrine et resta péniblement absorbé. Un bruit léger attira son attention. De l'autre côté du pavillon, encadré dans un bosquet de lilas, Dosia le regardait douloureusement, les mains jointes et abandonnées sur sa robe. Comme il levait les yeux, elle lui fit un signe de tête sérieux, presque solennel, et glissa entre les deux murailles de feuillage. Platon n'essaya pas de la rejoindre et resta tristement préoccupé jusqu'au moment où la cloche l'appela pour le déjeuner. La maison Zaptine était le temple du brouhaha. Si ce dieu a jamais eu d'hôtel, l'encens qu'on brûlait pour lui dans cette demeure devait lui être particulièrement agréable car il y séjournait de préférence. Pendant 2 grandes heures, le déjeuner rassembla tour à tour les membres de la famille et les visiteurs. Par une de ses faveurs spéciales, que la Providence met en réserve pour les gens indécis. Ceux qui avaient quelque chose à se dire ne parvenaient pas à se rencontrer, les uns entrant, les autres sortant, toujours mal à propos. On finit pourtant par se réunir au complet, ou à peu près. « Qu'allez-vous faire aujourd'hui ?» dit Madame Zaptine. « Il faudrait aller vous promener. » Une partie de plaisir fut vite organisée. On devait prendre le thé dans la forêt, puis revenir le long de la rivière, alors haute et superbe, qui baignait des prairies magnifiques. Un fourgon partit en avant le cuisinier, la ménagère, le buffetier et toutes les friandises imaginables. Vers 4 heures, la compagnie se mit en route. Les uns en calèche, les autres en droschki de campagne, longue machine roulante, où l'on ne peut guère tenir en équilibre qu'à condition d'être très tassé, en vertu sans doute de l'attraction moléculaire. Dosia avait voulu monter son cher Bayard, qui, en l'absence de sa jeune maîtresse, s'était encore perfectionné dans l'art de défoncer le tonneau. L'inspection d'Hermise ayant prouvé l'impossibilité absolue de se servir des selles d'homme, mises hors d'usage par un trop long abandon, force fut aux jeunes gens de monter dans les équipages. Dosia, vêtue d'une longue amazone en drap bleu foncé, coiffée d'un large feutre Henri IV orné du classique panache blanc, maniait sa monture avec une aisance parfaite. Pendant 5 minutes, elle trotta paisiblement à côté de la calèche où sa mère faisait à ses hôtes les honneurs du domaine, mais cette sagesse forcée l'ennuya bientôt. Elle cingla d'un coup de cravache Bayard qui fit feu des 4 pieds, s'enleva, rua, couvrit la calèche de poussière et partit comme une flèche dans la direction de la forêt. On ne vit bientôt plus qu'un tourbillon confus sur la route poudreuse. « Elle va se casser le cou !» s'écria la princesse. « Non !» soupira mélancoliquement Madame Zaptine. « C'est toujours comme ça, et il ne lui arrive jamais rien. »